Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à l'Avenir au Naturel, votre émission de nature et d'environnement chaque semaine. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une association iséroise, l'association FEDA. Alors, ça s'écrit F2EDA et nous sommes en compagnie de Laurent Frobert.
Bonjour Sébastien, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour. Alors, quelles sont vos attributions au sein de cette association ?
Eh bien, l'un des fondateurs et puis l'actuel président.
L'actuel président. Donc, en compagnie du président de cette association. Alors, FEDA, ça veut dire formation et éducation à l'environnement et au développement approprié. Alors, vous allez nous en dire un petit peu plus. Pourquoi ce nom ?
Pourquoi ce nom ? Il y a beaucoup de raisons. La première, c'est qu'on tenait au concept de développement approprié.
Donc on va y revenir justement, parce que c'est quelque chose qui nécessite des explications.
Oui, tout à fait. Donc on voulait le faire apparaître dans le sigle. Le mot formation, parce qu'on tient à la formation, puisqu'on tient aussi à l'autonomie, donc c'était important pour nous. Puis ensuite, l'éducation à l'environnement, parce que c'est un thème central dans nos activités. Voilà, tout simplement. Ouais. Puis également une référence à feed en anglais qui veut dire nourrir.
D'accord, c'est la question qu'on se posait. Bon, très bien. Eh bien, on va y revenir alors. Alors, comment est née cette association ? Dites-nous-en un peu plus.
Elle est née en septembre 2003 à la suite d'un travail qu'on faisait au lycée français en Amérique centrale. On a passé 6 ans là-bas avec ma femme, mes enfants, puis avec différents amis qui sont passés nous voir. Et tout est né à la suite d'un tremblement de terre. On a eu 2 tremblements de terre catastrophique
au Salvador,
à côté du Guatemala. D'accord. Donc en janvier 2001 et février 2001, on en a eu 2. Donc ça a secoué énormément le pays. On a eu plus d'un million de damnificados, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire des sinistrés. Un million sur 6 millions d'habitants, c'est énorme. Donc à la suite de ça, on s'est investi dans différentes missions d'urgence en parallèle à notre travail.
Vous connaissiez le pays par avance ou...
Oui, puisque ça faisait déjà 3 ans qu'on était sur place.
D'accord. Voilà.
Donc on avait pu constater une pauvreté énorme, mais sans vraiment être dedans, puisque par notre travail, on était plutôt en contact avec la couche aisée. Et on avait connaissance de ces difficultés de la population, mais sans vraiment en prendre conscience. Et à la suite du tremblement de terre, on a pris conscience des choses. C'est le déclic qui arrive à tous. Hein. Si un jour on a ce déclic, après on ne peut plus fermer les yeux. Donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Voilà, donc on s'est investi dans différentes actions auprès d'associations qui étaient déjà en activité ou auprès de fondations naissantes à laquelle j'ai participé ponctuellement avec un ami allemand. Et puis c'est en faisant comme ça la découverte de l'humanitaire entre guillemets qu'on a pu se rendre compte des difficultés de la mission d'urgence, des difficultés de faire une action appropriée. Puis ça nous a remis les ménages et puis après on s'est dit il n'y a rien à faire, on a besoin de faire les choses par nous-mêmes parce qu'il y avait des méthodes qui nous plaisaient pas. On avait envie de faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre, donc on va en parler je pense. Et c'est comme ça qu'est née l'association à la suite d'une visite d'un ami avec qui on s'est dit on doit monter nous-mêmes notre propre structure pour faire les choses de notre manière et parce qu'on a envie de faire les choses bien, pas n'importe comment. Et puis voilà, d'autres amis sont venus s'impliquer dans l'aventure et puis c'est comme ça que FEDA est né.
Donc FEDA est né. Et alors concrètement, les objectifs et les ambitions de l'association ?
Ah, il y en a beaucoup. Je commencerai par la première ambition qui est de ne pas jouer ce jeu de la cistana qu'on a pu voir sur place à l'étranger et qu'on a pu voir également ici en France avec en étant en contact avec d'autres associations.
Qu'est-ce que c'est... sous-entendez par assistana alors ?
Plein de choses. Une fois sur place, c'est tellement facile de donner. C'est tellement plus simple. On n'a pas besoin de réfléchir aux conséquences, on n'a pas besoin de réfléchir à la façon dont on s'y prend. On collecte et on donne. Et puis après, au niveau de la communication, c'est facile. On a donné ça, ça, ça et ça. Et il y a beaucoup d'associations qui tombent dans cette facilité. C'est ce que j'ai pu voir sur place, pas seulement dans l'urgence, mais aussi sur le long terme.
C'est peut-être nécessaire en cas d'urgence, justement.
Voilà. Alors en cas d'urgence, c'est nécessaire. Quoique, on a vu des tas de dérives qui sont vraiment intéressantes à analyser, mais bon, je pense pas que ce soit le lieu ici pour l'instant. Le non-assistana, c'est aussi par exemple ne pas apporter dans un conteneur des tas de choses sur place. D'une part, parce que ça fait marcher nos propres entreprises, pas les leurs, et d'autre part, parce que ça lamine complètement les initiatives locales. Ça a des tas d'effets pervers. Et puis au-delà de ça, ça favorise pas l'autonomie, et c'est ça qui importe pour nous. C'est vraiment l'autonomie, c'est le long terme. Travailler dans l'assistanat, c'est vraiment du court terme sur l'urgence, comme on a dit avant. Mais si on veut vraiment une action à long terme, une action qui pérenne, c'est-à-dire ne pas entretenir une dépendance entre nous-mêmes, notre association, et ceux qu'on prétend aider, voilà, ceux qu'on prétend aider, eh bien, il ne faut surtout pas tomber dans l'assistanat et travailler plus sur le long terme, sur l'autonomie. Quoi.
D'où le concept de développement approprié.
Tout à fait.
Voilà. Très bien.
Effectivement.
Alors, vous avez aussi quelques actions en France.
Oui, alors c'est tout à fait complémentaire d'ailleurs. Les actions en France, c'est principalement de la sensibilisation et de l'accompagnement de projets. La sensibilisation, c'est en France, donc si on participe à des foires, comme celle de l'Albin qu'on était il n'y a pas très longtemps, c'est à la demande animer des ateliers auprès de lycées, auprès de centres aérés. Ça, c'est, on répond à la demande.
Coup par coup. Quoi.
Au coup par coup, ouais, en fond, parce que c'est aussi notre philosophie. Si on répond à une demande, on ne va pas créer la demande.
Et il y en a de la demande en Isère, par exemple?
Il y a beaucoup de demandes en Isère, puisqu'il y a très peu d'associations qui travaillent sur ce thème de l'éducation à l'environnement et au développement durable, hein, le fameux EEDD. Mais c'est pas notre principal créneau, c'est pas tellement ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt, d'une part, d'accompagner des associations, des individus qui, en France, ont envie de s'investir dans une autre façon de cuisiner, puisque on va y venir, c'est notre créneau, hein, on s'est spécialisé sur ça, une autre façon de cuisiner avec le soleil ou avec d'autres techniques, et d'accompagner des associations qui ont des activités à l'étranger sur ce thème d'éviter la déforestation, d'éviter la coupe du bois de cuisine. On s'est vraiment spécialisé sur ça parce que quand on était en Amérique centrale, on a été mis face à ce constat que la grosse partie de la population dépense la majorité de son argent pour acheter le bois de cuisine ou le charbon. C'est complètement absurde. Cuisiner devient un luxe pour ces gens-là. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose, vraiment, en mettant en place des techniques simples, en les développant, en les diffusant. Donc c'est ça notre travail en France, c'est travailler sur ces techniques et puis accompagner les associations qui veulent utiliser ces techniques dans leurs projets, un peu comme un consultant le ferait ou comme un partenaire. Voilà.
Alors très bien, alors maintenant parlons de vos projets à l'étranger qui partent de France mais qui aboutissent à l'étranger. Mmh. Alors comment naissent-ils et comment se réalisent-ils concrètement sur le terrain? Comment faites-vous? On peut peut-être prendre un exemple particulier, je ne sais pas, à Madagascar par exemple,
oui.
Ou certains pays.
Puisque vous commencez par Madagascar, effectivement, on a été contacté par une association qui s'appelle École du Monde, qui travaille sur Madagascar depuis déjà pas mal d'années.
Donc la démarche n'est pas au début de votre initiative.
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on répond à une demande. Donc École du Monde nous a connus via notre site internet, tout simplement. Et ils ont vu que notre créneau d'action, c'est tout ce qui tourne autour du bois de cuisine, de la cuisine écologique, on pourrait dire. Et donc, ils ont fait appel à nous parce qu'ils avaient envie de compléter dans leurs activités ce créneau énergétique qu'ils n'avaient pas encore.
École du Monde doit certainement travailler au développement de l'éducation, j'imagine.
Alors oui, effectivement, ils travaillent sur en partenariat avec des écoles sur place, mais ils ont de plus en plus d'autres créneaux comme la santé et justement l'énergie. Donc comme c'était pas leur champ d'activité initial, et ils se sont dit, on va faire appel à des gens pour qui c'est vraiment le travail.
Et comme il y a
travail.
Un gros problème de déforestation à Madagascar.
Alors justement, c'est dans la partie ouest de l'île où il y a énormément de déforestation, et donc ce qu'ils ont envie de faire, c'est développer des fourneaux à bois améliorés. Donc ça, c'est quelque chose qui existe de partout dans le monde, mais notre façon de faire leur a plu, c'est-à-dire on n'apporte pas les fourneaux de France, on arrive les mains dans les poches, on les construit sur place avec les artisans, on forme les artisans, et ensuite les gens sont autonomes pour renouveler la technique.
Donc ce sont des bénévoles de votre association qui vont sur place, vous n'avez pas de salariés à l'association?
Non, pour l'instant on n'a pas de salariés, c'est une problématique intéressante, la notion de salarié dans une association, mais... on n'a pas de salarié, c'est plutôt pour l'instant un choix, parce que il y aurait vraiment de quoi faire créer un poste de salarié, mais créer un poste de salarié, il faut faire des rentrées d'argent, et donc il faut mettre en place des activités qui vont générer des revenus, et donc tout ce temps qu'on va investir pour financer un salarié, c'est pas du temps qu'on pourra consacrer à d'autres choses qui nous intéressent davantage.
Ce qui veut dire que vous n'êtes pas à la recherche de fonds?
On n'est pas à la recherche de fonds pour un salarié. On a la recherche d'une part de bénévoles et d'autre part d'adhérents, puisque c'est finalement les adhérents qui créent notre indépendance financière.
Vous n'allez pas chercher des fonds chez des institutionnels?
Ça dépend. C'est vraiment au coup par coup. Là, pour Madagascar, on a cherché des fonds à la demande d'École du Monde auprès d'un partenaire avec qui ils avaient l'habitude de travailler, qui s'appelle Restaurants Sans Frontières. Et donc, on a eu quelques fonds par Restaurants Sans Frontières et le reste est complété par FEDA. Mais comme nos bénévoles ne demandent rien, les budgets sont très faibles. Les fourneaux à bois améliorés pour le Madagascar, c'est quasiment rien la dépense d'un fourneau, c'est de l'ordre de 5 à 10 euros sur place. Et on forme les artisans, donc les dépenses sont minimes. Et c'est ça qui étonne beaucoup les gens avec qui on travaille au départ, c'est que les budgets sont faibles, puisque finalement notre force c'est le temps donné par nos bénévoles et par tous les bénévoles, et c'est ça. Et si on valorisait ce temps, ça serait des budgets énormes.
Donc, à Madagascar, l'association École du Monde vous contacte, vous établissez, j'imagine, un projet en France, sur papier.
On les rencontre.
Vous les rencontrez, ouais. Et ensuite, la réalisation, comment ça se fait, quoi.
Eh bien, ça, c'est au coup par coup, là aussi, ça dépend des besoins du partenaire. En l'occurrence,
vous partez longtemps sur place, quelques jours, comment ça...
On fait beaucoup de choses par téléphone et par mail. Donc là, nos deux bénévoles, qui s'appellent Olivier et Morgane, vont partir au mois de novembre, en mission
donc,
là-bas.
Donc, ce sont des gens français en France,
ouais.
Qui partent à Madagascar,
ouais.
D'accord.
Oui,
vous n'avez pas de bénévoles sur place.
On n'a pas de bénévoles sur place puisqu'on utilise les compétences locales du partenaire qui lui-même a des bénévoles sur place. Donc là, nos deux bénévoles à nous vont partir là-bas au mois de novembre et vont travailler avec déjà les bénévoles que l'École du Monde
a
sur place.
Donc le projet est en cours pour le moment.
Le projet est en cours.
Le projet est terminé.
Non, le projet est complètement en cours. La phase qu'on appelle de diagnostic vraiment importante, elle est également en cours, à savoir quels sont les matériaux locaux puisqu'on fait tout sur place, quelles sont les ressources locales. Quelles sont les habitudes locales, les besoins locaux, etc. Et en fonction de ça, nos deux bénévoles vont mettre en place
donc
ce projet.
Donc vos deux bénévoles partent presque les mains dans les poches, on va dire.
Tout à fait.
Ils n'emmènent pas grand-chose de France.
Une clé USB, éventuellement, ça peut servir.
Il y a Internet à Madagascar, ils arrivent à contacter.
Il y a quelques ordinateurs qui, ça peut être utile.
Ça peut être ça, d'accord. Donc, et sur place, vous estimez à combien le temps nécessaire
Il faut au moins deux semaines. Il faut au moins deux semaines pour mettre en place quelque chose d'intéressant. Il faut au moins deux semaines.
Il n'y a pas besoin de contact au préalable ?
Si, il y en a. Ça se fait par téléphone, par mail.
Vous rassemblez la population, comment vous faites concrètement ?
Eh bien là, c'est le partenaire local, en l'occurrence, qui prépare la venue. Et puis, mais en général, sur place, on est obligé de refaire une mise au point, de toute façon. Il y a toujours un grand décalage entre ce qui est compris, ce qui est interprété par le partenaire local et ce qu'on pense... ce qu'on prévoit. Alors, de toute façon, dans tous ces projets-là, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, dans tous les pays où on a été, il y a une dose d'improvisation énorme, puisqu'on s'adapte aux réalités locales. Et on a beau préparer le projet au mieux en France, c'est toujours une dose d'improvisation impressionnante avec laquelle il faut toujours compter.
Alors, parlons un petit peu de l'éducation à l'environnement, parce que j'imagine qu'il y a besoin d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, et qu'il faut qu'ils s'approprient directement le projet pour qu'il fonctionne. Donc, vous leur parlez de la déforestation ? Comment ça se passe ? Ou ils ont déjà conscience du problème ?
Ils ont déjà conscience du problème, de toute façon. Quand on intervient, c'est que c'est vraiment déjà dans une situation de précarité au niveau de la déforestation.
Donc, c'est facile de leur faire comprendre que ça va faciliter
la nécessité. Voilà. La nécessité, de toute façon, on réclame qu'elle soit là, parce que sinon, l'appropriation, elle sera faible. Donc, en l'occurrence, il y a des pays, je pense au Rwanda, où la coupe du bois est interdite. Donc, la nécessité, elle est claire, elle est énorme. À Madagascar, le bois, soit ils vont le chercher très loin, soit ils l'achètent, ou alors ils achètent le charbon. En saison des pluies, le bois, c'est difficile à trouver. Non, dans ce cas-là, c'est clair, c'est net, quoi. Les gens, ils ont tout à fait conscience de la nécessité de consommer moins de bois. Et pour eux, c'est parfois une nécessité économique, comme on l'a dit avant.
D'accord,
ça leur coûte très cher.
L'avenir naturel en compagnie de Laurent Frobert, président et donc fondateur de l'association FEDA, formation et éducation à l'environnement et au développement approprié. Nous avons donc parlé de vos actions sur Madagascar, mais vous en avez dans beaucoup d'autres pays. Alors dites-nous-en un peu plus, je crois que vous travaillez au Sénégal, que vous avez travaillé ou que vous travaillez encore au Bénin, au Cameroun.
Oui, tout à fait, oui. Au Sénégal, on en vient puisqu'on a passé un mois là-bas. On a initié 3 projets. Et qui sont très différents les uns des autres. Le premier au nord avec une association locale de femmes qui s'appelle FEDA. Le hasard est impressionnant.
Ça s'écrit pareil.
Ça s'écrit pareil. D'accord. Le premier F veut dire femme, tout simplement. Donc, ils nous ont demandé d'intervenir auprès de groupements d'intérêts économiques locaux pour, d'une part...
C'est quoi des groupements d'intérêts économiques?
C'est, en général, ce sont des
entreprises?
Non, ce sont des femmes qui s'organisent. Ce sont souvent des femmes. C'est souvent les acteurs importants là-bas qui s'organisent entre elles, pour qui se structurent, parce qu'il faut quand même une structure juridique pour mettre en place des choses
ensemble. Créer une activité économique.
En général, c'est pour créer une activité économique.
Et qu'est-ce que vous pouviez leur apporter? Qu'est-ce que vous leur avez apporté?
Du savoir-faire au niveau des fourneaux à bois. Donc, elles, ce qui les intéressait, c'est de sous-traiter une partie de la construction des fourneaux à bois par des soudeurs et ensuite de mettre en place un centre de construction, un centre de ressources, pour que les femmes puissent faire le montage final avec des bidons recyclés, puisque c'est souvent de ça qu'on part, pas nécessairement, et ensuite les vendre ou les utiliser pour elles-mêmes. En gros, c'est ça. Donc là aussi, on a deux bénévoles qui vont partir au mois de novembre pour mettre en place réellement le projet. Et nous, en juillet-août, on a rencontré nos partenaires pour affiner la façon dont le projet était perçu par les locaux. Et c'est à cette occasion-là qu'on affine un peu les choses.
D'accord. Parce que j'imagine qu'une fois les projets lancés et en réalisation, vous faites une évaluation, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Du succès, où il y avait certainement des difficultés à rencontrer.
Oui, mais ça, c'est vraiment sur le long terme, c'est sur plusieurs années. Hein, par exemple, en Amérique centrale, on a eu la chance d'avoir un bénévole qui a pu retourner au Salvador 3 ans après. Et on a vu comme ça, il a été dans seulement une dizaine de familles, parce que les familles sont très très isolées là-bas, ce sont des montagnes, donc c'est vraiment difficile de les visiter toutes. Et on a eu un petit aperçu comme ça, 3 ans après, de l'utilisation des fourneaux à bois, et ils étaient toujours utilisés, et ils étaient donc, déjà...
Les retours que vous avez sont positifs.
Ah, sur les fourneaux à bois, c'est magnifique. Après, sur d'autres techniques, c'est plus compliqué. Ouais.
Est-ce que c'est généralisable à tous les pays qui en auraient potentiellement besoin? Oui. Ou est-ce qu'il y a des critères de fonctionnalité?
Non, c'est généralisable. L'intérêt de la technique, c'est qu'elle est vraiment très adaptative. Donc, si on trouve pas les matériaux locaux classiques, comme des bidons ou de la tôle, dans ce cas-là, on s'adapte. C'est ce qu'on a fait dans le centre du Sénégal. Si on utilise plutôt de l'argile. Donc la structure, au lieu d'être en métal, elle est en argile. Ce qui, d'une part, diminue le coût, bien évidemment.
Trouver sur place, j'imagine.
Trouver sur place, forcément. Et en utilisant un savoir-faire local, c'est-à-dire des artisans potiers ou potières qui savent fabriquer l'argile, enfin l'utiliser. Donc c'est ce qu'on a fait cet été. Et puis au sud, on a travaillé à la demande d'un directeur d'école. Donc, une école rurale qui avait des problèmes par rapport à la mangrove qui
disparaît.
Voilà, qui disparaît petit à petit, et donc ils nous ont demandé d'intervenir, et on a commencé différentes choses là-bas.
Toujours sur le même thème.
Toujours sur le même thème.
De bois.
Et puis la protection de la forêt, puisque au centre du Sénégal, par exemple, on nous a montré des forêts classées, c'est-à-dire des forêts où il y a interdiction de coupe.
D'accord. Ouais. Respectées.
Tout à fait, respecté. Oui.
Très bien. Donc il y a d'autres pays d'Afrique sur lesquels vous intervenez. D'ailleurs, c'est majoritairement en Afrique.
Oui, c'est curieux d'ailleurs, parce qu'on a commencé par l'Amérique centrale, puisqu'on vivait sur place. Et puis après, en France, comme on répond à la demande, et comme c'est vrai que...
Parce que la demande vient plutôt d'Afrique.
Oui, c'est ça, la demande vient plutôt d'Afrique.
Rien en Asie, par exemple, si.
En Asie, on a eu une demande de part d'un adhérent, et on lui a laissé après la Malib parce que c'était son idée, et puis ensuite on n'a pas eu de suite. Donc on va pas chercher la demande, elle vient à nous.
Et... Oui, et puis voilà, il y en a assez, si j'ai bien compris.
Oh oui.
Alors vous êtes toujours aussi au Salvador ou...
Non.
Non, c'est non, d'accord. Donc
non,
là,
non,
c'est
non.
Lancé. Et vous avez eu des retours justement positifs.
On a eu positifs et négatifs. On voit les limites un peu de...
Alors par exemple, c'est toujours intéressant de voir les limites d'un système, de projet.
Oui, ça nous permet d'affiner après la suite. Ouais.
C'est quoi ces limites alors?
Eh bien, une des limites, c'est la capacité des gens à s'organiser ensemble. Malgré le fait que dans ce village où on est intervenu, qui s'appelle Estancia, dans le nord du Salvador, le village était très structuré à la suite de l'intervention des médecins du monde pendant plusieurs années. Donc on s'est dit, c'est bon, on a des promoteurs de santé, on a tout ce qu'il faut. Donc on a formé en premier les promoteurs de santé sur ces techniques.
Médecins du monde, c'est une association humanitaire traditionnelle, on va dire.
Voilà, donc d'ailleurs on travaille main dans la main à ce niveau-là, puisqu'on a fait différentes choses avec eux, notamment des stérilisateurs solaires, mais c'est pas le moment d'en parler peut-être.
On va y revenir.
Et donc on avait... Tout sur place, c'est-à-dire à la fois des gens motivés, structurés, qui ont l'habitude de travailler avec des étrangers, qui ont l'habitude d'une certaine méthodologie en termes de montage de projet. Donc c'était parfait. Et 3 ans après, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été capables de réparer eux-mêmes les fourneaux qui forcément s'abîmaient à l'usage. Ils les utilisaient tous les jours.
Jusqu'à ce qu'ils meurent. Le
fourneau était en... On a vu la belle mort des fourneaux qui ont été plus qu'utilisés jusqu'à la moelle, si j'ose dire. Mais ils avaient tous les éléments pour les réparer. Tous les intermédiaires, les soudeurs Les bidons, ils savaient où les trouver, ils n'ont pas su s'organiser tout seuls pour le faire. Et l'obstacle est principalement culturel à ce niveau-là.
Et est-ce qu'on peut imaginer une manière de le dépasser, cet obstacle? Il faudrait y retourner, c'est ça?
Il faudrait y retourner.
C'est-à-dire que les fourneaux à bois sont pour l'instant complètement abandonnés, alors, sauf ceux qui fonctionnent encore?
Ils sont abandonnés dans le sens où ils sont usés, ils ne peuvent plus les utiliser. Et manifestement, d'après le suivi, enfin l'évaluation qu'on a eue, ils n'ont pas été capables d'en refabriquer par eux-mêmes. Et c'est l'idéal sur le quoi, vers lequel on voulait se tourner. Ils avaient toutes les billes en main pour en refaire, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Il y a différentes explications, mais le culturel est la principale explication. Notamment le respect qu'ils ont vis-à-vis de ces promoteurs de santé. Les gens n'ont pas eu la démarche d'aller vers eux et de leur dire, ben voilà, le mien, il est foutu, il faut qu'on le refasse. Et pourtant, on avait laissé tous les outils nécessaires, tout ce qu'il fallait pour les refaire. C'est curieux, hein. Voilà. Après, pour d'autres techniques, le culturel est encore plus déterminant, notamment sur le solaire, on en parlera.
Donc on voit qu'il y a certaines limites, comme pour tout projet d'ailleurs. Ouais. Alors je voudrais qu'on termine l'émission en parlant un peu des formations que vous organisez, mais cette fois chez nous, en France. Mmh. On pourrait parler, je crois, de la prochaine qui a lieu très prochainement au mois d'octobre, si je ne me trompe. Ouais. Dites-nous-en un petit peu plus.
Eh bien là aussi, on organise des formations à la demande, là aussi. Donc quand parmi nos bénévoles, il y a une demande de savoir-faire. Par exemple, pour Madagascar et pour le Sénégal, ils interviennent sur place, ils doivent avoir la maîtrise de la technique. Donc on forme évidemment nos bénévoles. Ensuite, les associations qui nous contactent, on leur dit, venez vous former chez nous, parce que on veut votre autonomie. On ne veut pas mettre en place une dépendance vis-à-vis de nous. On favorise l'autonomie même des partenaires avec qui on travaille. Donc, ils viennent chez nous en formation. Puis après, quand on parle de site internet, on a des gens qui nous contactent.
Des particuliers, entre guillemets, quoi.
Qui ont envie d'appliquer ces techniques pour eux-mêmes. Il y en a. On a eu le cas d'une bergère qui est venue chez nous pour fabriquer son fourneau à bois et l'emmener dans sa...
Bergerie.
Et pour elle, c'est effectivement très utile. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on aimerait bien être contacté par les parcs nationaux et régionaux, parce qu'à plusieurs reprises, nous, on a été dans des abris en montagne où c'était impossible de cuisiner. Puis on s'est dit, bien dommage qu'on n'ait pas nos fourneaux à bois dans ces refuges.
L'appel est lancé.
Franchement, parce que là, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, en fonction des besoins et des demandes, on organise différents ateliers. Donc là, pour fin octobre, on a un atelier de construction de fourneaux à bois. Mais à la suite de l'affaire de l'Albin, qu'on va rajouter un deuxième atelier, puisqu'il y a une demande sur tout ce qui est solaire et toutes les techniques connexes. Donc on en rajoute un atelier un atelier théorico-pratique, où on utilise dans un premier temps toutes les techniques, on les utilise d'ailleurs pour cuisiner pour le midi.
Ça dure une journée ?
Ça dure une journée complète, c'est tout. Ça suffit. On pourrait faire durer deux journées, mais ça ne sert à vraiment pas. Et ensuite, on voit tous les tenants, les aboutissants de toutes ces techniques, au niveau théorique et au niveau pratique. De façon, encore une fois, à ce que les gens, à la suite du stage, soient vraiment autonomes. Et on fournit les plans, on fournit tout.
Donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour le prochain
stage?
Oui,
tout à fait. De toute façon, ça fait maintenant 3 ans qu'on organise ce genre de stage, et les gens s'inscrivent toujours au dernier moment. C'est assez pénible pour l'organisation, mais... Ouais. Et on limite à 15, par contre. Donc, à chaque fois, on était entre 12 et 15, on était vraiment plein, et c'est un moment de partage aussi, entre tous les stagiaires.
Alors, si nos auditeurs veulent en savoir plus, vous allez nous donner le site internet de l'association FEDA.
Mais tout simplement, www.feda.org. Ou alors...
Un contact téléphonique.
Le 06 33 38 58 12 sur l'Isère.
06 33 38 58 12. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur l'association FEDA et vous en saurez encore un peu plus la semaine prochaine si vous êtes encore avec nous, puisque nous rentrerons un tout petit peu dans le détail de la cuisson solaire notamment et des fourneaux à bois avec toujours Laurent Frobert qui sera avec nous.